Studio Tamani, voici les informations en français.
Bienvenue à toutes et à tous. Les titres de cette édition, célébration ce 13 février de la Journée mondiale de la radio. Cette année, le thème retenu au Mali est « La radio face aux urgences climatiques », un thème plus que jamais d'actualité selon des environnementalistes. La coordination des enseignants du supérieur poursuit sa grève faute de compromis avec le gouvernement. Toutefois, selon les grévistes, une commission devrait être mise en place prochainement pour trouver une solution au problème. La deuxième édition du festival d'Ibi sera officiellement lancée ce jeudi soir à 20h. Mais depuis ce mardi, déjà, l'événement commence à drainer du monde. Plus de 100 000 festivaliers sont attendus selon la commission d'organisation. Le développement de ces titres dans un instant avec Imran Akilomaïga. La Journée mondiale de la radio a été célébrée au Mali ce jeudi 13 février 2025. Le thème mondial de cette édition est « Radio et changement climatique ». Mais au plan national, le thème choisi est « La radio face aux urgences climatiques », comme pour montrer l'apport important que ce média peut avoir dans la lutte contre le changement climatique. Pour Adama Sambou Sissoko, docteur en géographie de l'environnement, les radios sont incontournables dans la lutte contre le changement climatique. Nous l'écoutons au micro de Drahman Meïga.
Il faut dire que quand on parle de changement climatique, il faut qu'on parle tout d'abord des concepts usuels dans le domaine du changement climatique. Traduire ces concepts en langue locale, il n'y a pas un autre endroit mieux indiqué que la radio. Ce sont les animateurs des radios qui sont plus proches des communautés locales. À travers les radios, la dissémination des informations climatiques. C'est vrai, les réseaux sociaux ont pris le boom aujourd'hui, mais tout le monde n'a pas accès à l'Internet. Tout le monde n'a pas le moyen d'avoir le forfait. C'est pour dire que la radio, aujourd'hui, plus que jamais, a son rôle à jouer. Les pratiques agricoles, au-delà de celles-ci, il y a l'information météorologique, agro-météorologique. Est-ce qu'il ne va pas pleuvoir demain? La température, ainsi de suite. C'est par la radio qu'on s'informe. Donc, c'est pour dire que tout ce qui est changement climatique, pour mieux impacter, il faut qu'on passe par la radio.
Éprouvés par une crise sécuritaire depuis 2012, les radios font face aujourd'hui à une crise économique et énergétique. À cela s'ajoute, il faut ajouter l'évolution galopante des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des défis énormes pour les radios et les professionnels de ce média. Malgré tout, ces derniers demeurent confiants quant à l'avenir de la radio au Mali. Le reportage de Intala Akbilal.
Le Mali compte aujourd'hui près de 600 radios sur l'ensemble du territoire national. Parmi ces nombres, plus de 400 sont membres de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, IRTEL. Pour le président de l'IRTEL, Mamoudou Bokoum, la radio est inoxydable malgré les défis qu'elle doit relever aujourd'hui.
Rien ne peut compromettre l'existence de la radio. Mais il y a des défis, il y a des difficultés qu'il faut assumer. Aujourd'hui, au Mali, la radio reste la première source d'information des Maliens. C'est un outil qui s'adresse à ses auditeurs dans la langue qu'ils comprennent.
Abdoulaye Hamdi Djité est le directeur général de la radio Clédou, l'une des plus écoutées au Mali. Pour lui, l'avenir de la radio est radié au Mali. En revanche, il demande aux hommes et femmes des radios le professionnalisme.
La radio a un avenir radieux. Elle ne va jamais mourir et tarir. La radio, c'est un média chaud, c'est un média instantané, c'est un média direct, c'est un média sérieux, c'est un média professionnel, c'est un travail professionnel, un travail vérifié avant de diffuser. Et on doit émettre sur l'Internet pour un grand accès et une grande accessibilité.
Pour ces professionnels de la radio, les nouvelles technologies doivent plutôt être une opportunité et non une menace pour la radio. À Bamako, des auditeurs interrogés sont unanimes que les médias aura toujours une place de choix, tant sur le plan informatif, éducatif que distractif.
Comme chaque année, Studio Tamani et ses partenaires URTEL et la Maison de la Presse ont organisé une cérémonie marquant cette journée mondiale de la radio. L'événement a enregistré la participation du ministère de la Communication, des responsables des fêtières de la presse, ainsi que plusieurs personnalités. Nous y reviendrons dans notre édition de demain matin. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Toujours pas de compromis entre le syndicat national de l'enseignement supérieur et le gouvernement. Le SNESIP est à sa troisième semaine de grève depuis le 27 janvier. Le responsable du syndicat affirme toutefois qu'une commission composée des représentants de deux parties devrait être mise en place très prochainement pour un dénouement heureux. Il faut rappeler que les enseignants du supérieur observent un arrêt de travail illimité pour exiger le paiement de la prime de recherche. Sur toute autre information, les activités de la 10e édition du festival culinaire et gastronomique appelé Festidibi ont commencé depuis mardi dernier. Les festivités se poursuivent jusqu'au 13 février à la place du cinquantenaire. Selon les responsables de la commission d'organisation, plus de 100 000 festivaliers sont attendus cette année pour magnifier ce grand rendez-vous gastronomique. Reportage de Moussa Agmahaha.
Il est 17h, la foule commence à venir à la place du cinquantenaire de Bamako. Un important dispositif sécuritaire est positionné pour maintenir l'ordre sur les lieux. Les derniers réglages du podium et l'installation de certains stands s'effectuent d'un côté. Haruna Bagayago est l'un des responsables de la commission d'organisation.
Nos stands, c'est 100 stands, mais il y a des gens qui ont amené les stands avec eux, les vendeurs de jus. Donc on a 9 de ça. Chaque année, on a plus de 5000 festivaliers.
Déjà, la vie et l'odeur des grillades font saliver, le tout dans une ambiance sur fond de musique. Oumou Sila et Kadiatou Keita sont respectivement deux grandes amatrices du Festidibi. Si la première déplore un léger retard dans la mise en place, la deuxième trouve qu'il y a eu une grande innovation autour de l'événement.
L'ambiance est plutôt pas mal, mais ils n'ont pas fini avec la mise en place. Je suis venue pour but d'acheter des brochettes, mais j'ai trouvé que ce n'était pas encore prêt.
Il y a vraiment une grande évolution, parce qu'avant c'était seulement la viande qui était vendue ici. Mais aujourd'hui, il y a des poulets, des poissons et beaucoup d'autres choses.
Abdoulaye Diko de la Dibiterie Dibiché est un habitué de ces rendez-vous. Il affirme que les clients viennent timidement.
On est là à attendre les clients sur le moment. Petit à petit, les clients ont commencé à venir, mais pas comme on le souhaitait. Comme c'est la première journée, très généralement, les gens viennent dans les week-ends.
A noter que l'ouverture officielle de ce festival est prévue ce jeudi 13 février à 19h. Le Niger est l'invité d'honneur de cette 10e édition.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Sur le marché malien, on trouve plusieurs types de jus industriels, de jus produits par des moyennes et petites entreprises locales et ceux autorisés à l'importation. Cependant, certaines de ces boissons sont présentées comme des produits naturels et ne contenant pas d'additifs ni de colorants. Des indications qui introduisent souvent les consommateurs en erreur, car selon le nutritionniste, il est difficile, voire impossible, de conserver un produit 100% naturel au-delà de 3 jours. Et selon l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, des aliments, le marché est de nos jours inondé de jus produits illégalement. Lala Gahara Touré a, dans ce dossier, rencontré les acteurs impliqués de la production et le contrôle qualité de jus.
Nous sommes au marché d'Abanani en commune 3 du district de Bamako du côté des vendeurs de jus. Au premier coup d'œil, nous pouvons détecter plus de 20 types de jus étalés à même le sol. Il y en a pour toutes les bourses, nous confie ce revendeur.
Mes produits viennent de plusieurs usines maliennes. Nous prenons en gros auprès des propriétaires d'usines. Souvent, on paie en cash et d'autres fois, on nous donne à crédit et après, on verse l'argent aux producteurs. Ce sont les jus pour enfants qui marchent vraiment. Le prix varie entre 25 et 100 francs CFA.
Le ravitaillement pour ces revendeurs se fait localement auprès des petits producteurs. Mais ces derniers tiennent-ils compte des règles sanitaires lors de la production ?
Je fais la production chez moi. Souvent, j'amène directement au marché où je le fais par commande. C'est 100% naturel. J'ajoute seulement un peu de sucre et de la poudre de citron pour la conservation. Je n'ai pas les moyens de faire inspecter les produits, vu que c'est une petite entreprise.
Nombreux sont pourtant les consommateurs qui ne mesurent pas l'ampleur du danger lié à la consommation de ces produits. Beaucoup se fient notamment aux indications sur les emballages et ignorent leurs conditions de production précaires.
Même si ce n'est pas 100% naturel. À mon avis, le pourcentage du naturel est plus élevé.
C'est sans effet secondaire et sans produits chimiques. Chez moi, tout le monde consomme.
Docteur Diara Bakari est le chef du département nutrition et sécurité sanitaire des aliments à l'ANSA, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Selon lui, il y a actuellement des catégories de jus en vente sur le marché malien. Les jus importés et ceux produits sur place. Il reconnaît cependant qu'en dépit de nombreuses mesures prises par le ministère en charge de la question, une bonne partie des productions locales échappe au contrôle des services étatiques.
Ça, c'est un phénomène qui constitue pour nous un défi. Les jus qui ne sont pas aujourd'hui autorisés sont les plus nombreux. Les contrôles nous permettront de savoir si le produit doit rester sur le marché, oui ou non. Et si ça ne doit pas rester sur le marché, on fait simplement des saisies. C'est parfois musclé, quelle que soit la quantité pour la destruction.
En ce qui concerne certaines indications sur l'emballage, Dr Diara souligne que celles-ci sont assimilables à de la publicité mensongère.
Les gens, pour attirer la clientèle, parfois, ils donnent des vertus ou en tout cas des propriétés à leurs produits qui peuvent influencer rapidement le consommateur.
Les jus d'un fruit, 100% naturel, ne peuvent être conservés au-delà de 3 jours, soutiennent les nutritionnistes qui ont préféré s'exprimer hors micro. Alors, que contiennent donc les jus et autres boissons dits 100% naturels?
Voilà, c'est tout pour cette édition, mais on vous rappelle le thème du Grand Dialogue de ce soir, en temps de crise, la radio capable du meilleur comme du pire, c'est le thème du Grand Dialogue, un débat réalisé le 13 février 2024. C'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par Imirana Kilomaïga. Le paludisme reste un problème de santé publique au Mali. Les données du système national d'information sanitaire le classent comme étant la première cause de morbidité et de mortalité dans le pays. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les couches les plus affectées. Aussi, un rapport de l'Observatoire du paludisme sévère présente le pays au deuxième niveau où l'anémie grave causée par le paludisme chez les enfants de cette tranche d'âge est le plus élevée. Neuropaludisme chez les enfants, c'est le thème du magazine Tous les enfants du jour. C'est une présentation de Alice Cissé.
Le neuropaludisme ou encore l'encéphalopathie est la forme grave du paludisme selon des professionnels de la santé. La prévalence de cette complication majeure de la malaria chez les enfants est comprise entre 5 et 10% selon le programme national de lutte contre le paludisme. Docteur Aïssata Kone, directrice du programme, impute ce chiffre au mauvais comportement de la population.
Il y a beaucoup de cas graves. Tous les cas graves en réalité ne sont pas des cas graves. C'est dû surtout à notre comportement. Sinon, en général, les cas graves ne doivent pas dépasser les 5% au maximum, les 10% de la population. Donc, en principe, même si vous partez dans nos centres de santé, les cas graves en tant que tels ne devraient pas dépasser les 5%.
Des données statistiques montrent que plus de 40% des enfants ayant indiqué avoir de la fièvre n'ont pas consulté pour des soins. Des témoignages de parents d'enfants recueillis à l'intérieur du pays confortent ces chiffres. À Bankas, Mopti, Ségou, Sikasso ou encore à Yoroso, des mères interrogées affirment avoir eu des cas de paludisme dans la famille. Si certaines ont opté pour le traitement traditionnel de ces cas, d'autres se sont rendues dans un centre de santé.
Mon enfant tremble du fait de paludisme, mais ne convulse pas.
J'utilise les médicaments prescrits par les médecins dans le cadre du traitement du paludisme chez mes enfants. Par contre, je ne fais pas recours au traitement traditionnel.
J'utilise les médicaments traditionnels pour le soigner. Je n'attends pas que mon enfant développe un paludisme sévère. Je lui donne des médicaments traditionnels avant de le conduire à l'hôpital.
Des spécialistes de la santé affirment qu'environ un quart de tous les cas de paludisme signalés chaque année chez les enfants sont classés comme graves. Alors, comment se fait le diagnostic de cette forme de paludisme? Docteur Oumar Abibou Diallo, pédiatre, indique que 86% des enfants de 0 à 15 ans ont été testés au neuropaludisme en 2018 au CHU Gabriel Touré.
Le diagnostic peut être clinique devant des signes neurologiques comme une léthargie, une prostration, des convulsions, voire un coma fébrile, mais cependant, elle doit être confirmée par des analyses sanguines. Une étude réalisée en 2018 avait trouvé une fréquence de 86% de neuropaludisme parmi les enfants souffrant de paludisme grave au CHU Gabriel Touré.
Qu'en est-il donc de sa prise en charge? Docteur Aïssata Kone, responsable en charge du programme national de lutte contre le paludisme, répond.
Nous ne faisons pas de prise en charge sans test de diagnostic. Donc, c'est après le test de diagnostic, quand c'est confirmé, nous donnons un traitement antipaludique. Maintenant, pour les cas de neuropaludisme, les mamans doivent amener tous les enfants dans un centre de santé le plus plus proche. Donc n'attendons pas que ça soit vraiment aggravé.
Des propos soutenus par Dr Omar Habibou Diallo, pédiatre. Ces spécialistes énumèrent quelques pistes par rapport à sa prise en charge.
La prise en charge des neuropaludismes se fait toujours par voie intraveineuse ou par voie intramusculaire, jamais par voie orale. Nous pouvons être amenés à utiliser soit les dérivés kinétiques, soit par l'utilisation des dérivés d'artésimine par voie intramusculaire, soit récemment par des dérivés de l'artésimine qui sont de plus en plus utilisés dans nos contextes. Et le traitement doit continuer jusqu'à ce que le relais par voie orale puisse être possible par le malade.
3,7 millions d'enfants de 0 à 59 mois ont été protégés contre le paludisme en 2024 selon le programme national de lutte contre la maladie. Cela à travers la chimio-prévention du paludisme saisonnier administrée au Mali depuis 2012.